L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
Quelles opportunités représente le spatial pour la Nouvelle-Calédonie? L'armée de l'air et de l'espace organisait hier soir une conférence à ce sujet. Et pour en parler, vous recevez le commandant de la base aérienne 186.
Oui, le colonel Alban Jean Grandpierre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur cette initiative. Effectivement, hier soir, cette conférence en lien avec le CNES Nouvelle-Calédonie, hein, qui était le co-organisateur, sur les opportunités du spatial en Nouvelle-Calédonie. Alors, avant de voir de quoi on parle, quelle est l'origine finalement de cette conférence et qu'est-ce que vous avez voulu faire ?
L'origine de cette conférence, ce sont des échanges avec Kevin De Clute, qui travaille pour le gouvernement et qui est le représentant du CNES en Nouvelle-Calédonie. Une fonction qui a été créée il y a un peu plus d'un an et forcément qui nous a rapprochés. Kevin et moi-même, en tant que représentants de l'armée de l'air et de l'espace en Nouvelle-Calédonie, nous avons échangé et nous nous sommes rendus compte que l'espace était encore méconnu et que l'espace paraissait très loin et difficile d'accès. Donc l'objectif de cette conférence était de montrer ce qu'on pouvait faire avec l'espace, avec le New Space, et quelles pouvaient être les opportunités pour la Nouvelle-Calédonie.
Alors il faut aussi savoir ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace, parce que le nombre d'objets qui volent au-dessus de nos têtes est considérable, des satellites, enfin il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on a aujourd'hui une cartographie à peu près exacte de ce qui se passe dans le ciel ?
Alors une cartographie exacte, non. On sait qu'il y a des millions d'objets qui volent dans le ciel, des débris, des satellites... Et on essaye de les identifier pour savoir ceux qui vont se croiser, ceux qui ne vont pas se croiser. Ce à quoi on s'intéresse également, ce sont tous les satellites qui nous permettent aujourd'hui de vivre grâce à nos smartphones. Il faut savoir qu'on se connecte plus d'une dizaine de fois aux satellites dans une journée, au quotidien, que ce soit pour des télécommunications, pour... se géolocaliser pour savoir quelle est la météo, quel est l'état du lagon. Et toutes ces données sont des données qui reposent sur une infrastructure et des satellites qui peuvent être très fragiles. Et notamment, on s'est rendu compte que si l'espace était un lieu de coopération internationale, que l'on se représente assez facilement avec la station Mir, où on voit des spationautes, des astronautes russes, chinois et américains travailler ensemble, il existait une face un peu plus cachée, un peu plus sombre de l'espace, où les nations vont s'observer, se regarder. Et on a des exemples très concrets, récents, qui nous montrent cette compétition.
Alors, par exemple ?
Alors, dans les exemples récents, c'est en 2017. On a un satellite franco-italien qui fait des télécommunications, Athena Fidus, qui a vu se rapprocher de lui un satellite Lucholimp, un satellite russe, qui s'est rapproché tellement près qu'il n'y avait aucun doute sur l'intention du satellite. Et cette intention était de capter les télécommunications qui passaient par ce satellite. Alors si ça peut paraître très inamical lorsque votre voisin vous écoute, en relation internationale, ça s'appelle de l'espionnage. Et la ministre Florence Parly de l'époque a dénoncé cet acte d'espionnage et a mis en lumière cette compétition internationale, ce qui a déclenché derrière la création du commandement de l'espace au sein de l'armée de l'air et de l'espace et des armées françaises.
Et c'est pour ça aussi que l'armée de l'air s'est transformée en 2020 en armée de l'air et de l'espace ?
Exactement, c'était pour concrétiser et pour mettre en œuvre cette défense de nos satellites, de nos intérêts, et d'afficher clairement que la France était déterminée à protéger ses satellites, ses données, et qu'on allait mettre tous les moyens pour pouvoir le faire.
Alors de quoi on parle quand on parle de ces données qui arrivent de l'espace ? C'est quoi exactement ? Combien il y en a ? Où est-ce qu'elles sont stockées ? Enfin, vous dites qu'il y a des milliers, des milliards de données qui arrivent, mais elles sont où ?
Alors, on a plein de satellites qui captent des données radar, des données optiques, donc des photos, des télécommunications. Et toutes ces données sont stockées sur Internet. Elles sont accessibles sur Terre. Et il y a deux chiffres qui sont très, très emblématiques. Le premier, c'est qu'entre 5 et 10% du chiffre d'affaires de tout ce qui se passe dans l'espace est représenté par les satellites et les lanceurs. C'est-à-dire qu'on a 90% du chiffre d'affaires qui se joue au sol et à terre. Un autre chiffre qui est très intéressant, c'est que les données, 80% des données qui arrivent de l'espace, qui arrivent sur Terre, finalement 80% de ces données ne sont pas exploitées ou ne seraient pas exploitées. Donc ça laisse une matière très riche, très dense, que l'on peut exploiter pour l'agriculture, pour le suivi environnemental, pour un tas d'exploitations civiles ou militaires.
Alors justement, le but de cette conférence hier, c'était de parler des opportunités du spatial. Donc ça veut dire que ces données qui ne sont traitées ou pas encore traitées peuvent déboucher sur des projets très concrets, des opportunités même économiques.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que des données qui ne sont pas utilisées peuvent être analysées, exploitées et ensuite revendues par des start-up. Il y a des exemples, alors c'est des exemples civils où des données photographiques ou infrarouges sont analysées pour essayer d'identifier les départs de feu. Donc des sociétés analysent ces données et lorsqu'un départ de feu ou qu'on a une anomalie dans la photo, ils le signalent et ça permet de prévenir les services de secours.
Et en quoi la Nouvelle-Calédonie pourrait avoir des opportunités économiques ? Est-ce que son emplacement géographique pourrait le faciliter ? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font qu'elle pourrait se positionner aussi sur ce marché, entre guillemets ?
Alors la Nouvelle-Calédonie a plein d'atouts et... La Nouvelle-Calédonie n'a pas forcément plus d'avantages ou plus d'inconvénients que les autres territoires français. L'important est de connaître ces opportunités, de savoir ce que l'on peut faire, vers où aller. Et l'objectif avec Kevin De Clute, c'est de montrer toutes ces opportunités pour faire germer des idées et pour que des entreprises voient les opportunités, développent une filière, que ce soit spatiale, cyber, alors géographiquement, la Nouvelle-Calédonie étant assez proche de l'équateur, ça donne aussi des opportunités pour tout ce qui est lancement. Mais voilà, ça, on n'est pas encore sur ce niveau-là. Il existe plein d'autres domaines.
On parle pas d'une base de lancement de satellites en Nouvelle-Calédonie encore.
Pas encore, mais ça peut s'étudier. Mais aujourd'hui, il y a des opportunités beaucoup moins coûteuses au travers des données, au travers de l'exploitation et de filières innovantes.
Alors mon colonel, parlons un instant de ce qu'on appelle le New Space, hein, c'est-à-dire ces grosses compagnies, on connaît certaines d'entre elles, que ce soit SpaceX ou Blue Origin, qui ont en quelque sorte trusté le marché spatial ces dernières années parce qu'ils ont mis des moyens importants. Est-ce que ça a révolutionné finalement l'approche de l'espace qu'on peut avoir aujourd'hui ? Est-ce que ça oblige les États aussi à se positionner ?
Le New Space est une approche totalement nouvelle pour l'espace. Dans les années 60-70, quand on avait la conquête de l'espace, un satellite était un objet unique, presque une œuvre d'art, un projet qui durait des années, qu'on envoyait dans l'espace. Aujourd'hui, le New Space et la miniaturisation des technologies a permis de complètement changer l'état d'esprit. Et aujourd'hui, le satellite est plus vu comme un véhicule, comme un transporteur, dans lequel on va mettre une charge utile qui va prendre de la vidéo, qui va transférer de la donnée, qui va analyser de la donnée. Et donc, on a cette agilité, cette souplesse qui permet, avec des moyens relativement limités, avec juste des idées, d'aller capter pas mal de projets. Et notamment au niveau de la défense, il existe l'Agence d'innovation défense qui a un budget de 7 milliards d'ici 2030 pour justement faciliter, pas uniquement dans l'espace, aussi dans le cyber, mais pour aller capter des idées et voir comment ces idées peuvent être exploitées pour défendre notre territoire.
Parce qu'il y a un aspect évidemment extrêmement stratégique aujourd'hui dans le contrôle du ciel, mais on peut parler de ça parce que chacun aujourd'hui essaye de savoir au mieux ce qui s'y passe.
Voilà, comme je le disais, il y a de l'espionnage. Les données peuvent être très intéressantes, des données économiques pour savoir quelle entreprise a quelle stratégie. Ça permet à un concurrent de prendre les devants, de ne pas se faire surprendre. Donc ces données sont extrêmement précieuses et il faut les protéger. La stratégie qu'a mis en place les armées est une stratégie en poupée russe, où au cœur on a des moyens satellitaires français développés et qui n'appartiennent qu'à l'État français. Autour, on va s'appuyer sur des sociétés de confiance françaises, donc des start-up, des entreprises, et c'est là où il existe des financements pour pouvoir développer des idées, que ce soit des protections, d'analyse de données, d'analyse d'images. Et il existe des portails sur Internet, notamment au niveau du CNES ou de l'Agence européenne spatiale ou de l'Agence innovation défense, qui permettent de poster des projets et de dire voilà, moi j'ai eu cette idée. Est-ce que cette idée vous intéresse ? Et si effectivement elle est intéressante, il peut y avoir des financements, des accompagnements, et même des fois des parrainages par des entreprises beaucoup plus expérimentées.
Ça fait partie des choses que vous avez évoquées dans votre conférence hier soir, parce que le public est venu et peut être éventuellement intéressé par ces opportunités économiques et technologiques.
Ce sont effectivement des informations qui ont été données hier, les sites internet ont été communiqués, il y avait des représentants de la CCI, il y avait des représentants du rectorat, des entrepreneurs, donc toutes ces informations ont été données, partagées, j'espère qu'elles vont circuler et... qu'elles vont permettre de poster des projets et peut-être qu'on verra d'ici quelques années un projet calédonien
émerger, pourquoi pas.
Émerger, effectivement.
L'idée de cette conférence, c'est qu'elle en appelle d'autres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le CNES, vous allez voir comment rebondir et peut-être affiner les premiers thèmes qui ont été évoqués hier soir.
Voilà, la conférence d'hier était pour, en quelque sorte, initier, montrer les opportunités d'un milieu militaire. Ensuite, le domaine m'échappe, en quelque sorte, parce que moi, je suis très limité à la défense et aux moyens civils que l'on pourrait utiliser pour se protéger. Néanmoins, il existe de nombreuses opportunités, comme je le disais, pour la protection du territoire, pour le suivi du territoire, de la mangrove. Et ça, c'est plus du domaine civil et du CNES. Et donc, cette conférence va en appeler d'autres. Elle va appeler d'autres événements du spatial pour justement montrer que le spatial n'est pas aussi loin et qu'il est accessible depuis la Terre.
Colonel Jean-Lampierre, pour terminer, peut-être l'espace dont on parle beaucoup sans vraiment le connaître, en tout cas pour la plupart d'entre nous, c'est vraiment aujourd'hui un enjeu géopolitique réel et stratégique réel. Il y a même les premiers combats spatiaux qui commencent à venir.
Effectivement, c'est un enjeu stratégique, puisque, comme on dit souvent dans les armées, qui tient le haut tient le bas. L'espace étant l'extrêmement haut, celui qui maîtrisera la donnée et qui maîtrisera l'espace s'assurera un certain nombre de sécurité et un avantage certain. Et là où il y a de la menace, il y a des opportunités. Ce sont ces opportunités que l'on a souhaité mettre en avant hier soir.
Aujourd'hui, il n'y a pas de traité qui régit l'organisation de l'espace et la manière dont les États peuvent ou non y intervenir ?
Non, l'espace, il existe un seul traité qui date des années 60, qui met plutôt des interdictions sur les armes nucléaires dans l'espace, qui met des bonnes pratiques. Et l'espace, c'est un peu comme les eaux internationales dans l'océan. C'est un espace qui est très libre. Et qui dit libre, dit ouvert. Et donc, on peut voir un certain nombre d'actes pas forcément bienveillants.
Colonel Alban Jean-Grandpierre, commandant de la base aérienne 186, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation
ce matin. Merci à vous.